L'âge bête sur RCN.
Bonjour, vous écoutez L'âge bête en ce mercredi 19 mars. Bonjour tout le monde.
Coucou.
Aujourd'hui, nous enregistrons au lycée Marquette de Pont-à-Mousson. Il fait super beau. C'est étonnant aujourd'hui. Louise, tu nous parles de
la Baba Yaga.
Un conte, un mythe que tu nous parleras.
Exactement, c'est une sorcière.
Voilà. Roxane, tu nous parles de...
De l'avocat.
Le fruit. T'es pas souvent avec nous, mais
non, c'est la première fois.
Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, c'était Justine,
ouais,
je crois.
Oui.
Bah, Roxane, voilà, c'est ta première fois. Bienvenue à
Bonjour
toi.
Bonjour à tout le monde.
Et Antonin,
voilà.
Quiz.
Je vous laisserai le choix entre quiz et aussi le bac aussi. Ça dépend, on fera comme vous voulez.
Un petit mix, c'est aussi intéressant, agréable à écouter. Et on terminera avec une chronique où je parlerai d'un livre, Les chats de hasard. Un livre que j'ai lu si peu, c'est une amie qui me l'avait prêté. Enfin bref, vous écoutez L'âge bête sur RCN Radio. Nous lançons le générique.
RCN, L'âge bête.
Roxane, tu nous parles d'avocat.
Très bien, donc vous connaissez tous les avocats, bien sûr.
C'est oui, super exactement. Bien.
Voilà. Mais est-ce que vous saviez qu'ils existaient déjà il y a 50 000 ans? Ils étaient déjà sur Terre. Et c'était plutôt les gros animaux qui en mangeaient. Genre par exemple les gomphothères. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'était des éléphants, mais avec quatre défenses. Donc en
D'accord.
gros, c'était ce genre d'animaux-là qui mangeaient, qui consommaient des avocats. Donc ils les consommaient en entier. Et le noyau, après, il était rejeté par voie naturelle, mais très loin de l'arbre d'origine, ce qui faisait que ça favorisait la dispersion en fait, des avocatiers, et ça favorisait du coup le développement de l'avocat. Sauf qu'il y a 10 000 ans, ces animaux-là, ces gros animaux, ont disparu, et il n'y a pas eu d'animaux assez gros pour prendre le relais pour la dispersion, et donc l'avocat a failli disparaître. Il aurait pu, sauf si... Il y a l'homme qui a commencé à bien aimer l'avocat. Il a commencé à se dire « c'est pas mal ça, j'aime
Est-ce
bien ».
Est-ce qu'il l'a dégusté seul?
Je sais pas. Mais en tout cas, il a commencé... Ouais. Non, c'était pas des avocats de toast. Non, non. Non, mais il a commencé à les cultiver il y a 5000 ans. Et donc, ça a permis jusqu'à aujourd'hui qu'on connaisse l'avocat. Sauf que, en ce moment, avec le réchauffement climatique, les zones qui sont les plus productrices d'avocatiers, elles sont les plus sensibles aussi au réchauffement, puisque l'avocat, il a besoin d'un climat plutôt humide. Il a besoin un avocatier a
aussi.
Besoin de 180 litres d'eau par jour, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc, d'après un rapport de The Independent, je n'arrive pas à dire le mot, mais ce n'est pas grave, il disait bien que les périodes de sécheresse très longues, de plus en plus longues, auxquelles on assiste de plus en plus souvent, ça pose un problème pour les avocatiers dans
D'accord.
les régions en Amérique latine, parce que c'est de là qu'il est originaire. Donc par exemple au Mexique ou au Pérou, ça pose un problème, puisque les avocatiers ont du mal à se développer. Et il disait même qu'avec les données qu'on a aujourd'hui, les prévisions qu'ils annoncent pour 2050, c'est, en tout cas dans ces régions-là, c'est beaucoup de mal pour les avocatiers pour
c'est
se développer.
C'est comme toutes les cultures agricoles, de toute façon, ça va être de plus en plus compliqué à entretenir. Mais je revenais au fait, tu sais que l'avocat aussi, c'est bien-être, genre c'est bon pour la santé, mais pour la peau aussi.
Oui.
Donc pour l'humain, c'était...
Bénéfique.
Tout est bénéfique,
Dans le fruit.
Ouais. Donc il y a 10 000 ans, il a failli disparaître, mais peut-être que dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, il disparaîtra en tout cas. Et sera moins productif. Après, comme il y a le réchauffement climatique, ça veut dire que d'autres zones deviendront plus prospères, plus fertiles pour les avocatiers. Donc peut-être, en tout cas, qu'en Amérique latine, on en produira moins puisqu'on ne pourra plus. Mais ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y en aura plus. Oui.
Ça vaut aussi, on remarque aussi qu'il y a peut-être un petit peu plus de disparition parce que l'avocat coûte un petit peu cher.
Oui.
Dans le marché.
Oui, ça se ressent.
Se ressent dans tous les cas.
Voilà.
Merci beaucoup, Roxane. Nous écoutons la musique royale du groupe Hive.
Bro, 익숙한 시선 I want it 숨길 필요 없잖아
끝까지 세상에 보란데 모든 걸 보여주고 봤나 누구보다 환하게 빛나는 그런 나인걸 Cause you know I'm a royal, royal Diamonds in the gold Do it like a royal, royal 그게 나라고 거짓말이 나도 내게 So royal 다들 물어봐 How can I be like you Holo 나 소리지 말고 보여줘 Be loyal to yourself 가자 너 대한 거 보여줄 때 That's royal
RCN,
l'HBET,
tu dis pas.
On se retrouve après avoir écouté le son Royal Hive, un son qui a été choisi par Antonin. Nous écoutons maintenant Louise, qui nous parle d'un conte.
Exactement, je vais vous parler de la Baba Yaga, la sorcière aux mille visages. Perdue au fond des forêts slaves, nichée dans une cabane perchée sur des pattes de poulet, la Baba Yaga attend. Attendre, c'est d'ailleurs un bien gros mot pour cette sorcière légendaire qui ne se contente pas de rester assise dans son mortier volant, poussant des rafales d'air avec son pilon. Elle rôde, elle questionne, elle jauge ceux qui osent franchir son seuil. Mais qui est-elle vraiment ? Alors, la Baba Yaga, un monstre ou une guide ? Donc, la Baba Yaga, c'est une sorcière comme les autres dans un folklore russe et ukrainien. Donc, tout ce qui était l'URSS et tout ça.
Oui.
Elle oscille entre l'ogresse terrifiante et l'initiatrice mystérieuse. Parfois, elle menace de dévorer les enfants imprudents. D'autres fois, elle teste les héros, les mettant à l'épreuve avant de leur offrir un savoir précieux. Une ambivalence fascinante, à la fois repoussoire et passeuse de destin, en fait. Donc, ça demeure, on dit long d'ailleurs, une maison mobile qui tourne sur des pattes de poulet géantes et qui s'ouvre jusqu'au mot juste. Un détail qui traduit bien sa nature, donc la Baba Yaga n'est pas immobile, elle évolue. Elle n'est pas une simple antagoniste, bah elle est un seuil à franchir, une peur en fait à apprivoiser. Derrière le conte, il y a la mémoire des peuples. La Baba Yaga rappelle la figure archaïque de la terre-mère, ces vieilles déesses qui sont devenues des sorcières sous le regard des nouvelles croyances, comme Hécate chez les Grecs ou les fées noires dans les légendes celtiques. D'ailleurs, j'espère faire une prochaine chronique sur les fées noires. Elle incarne un pouvoir ancien, celui du sauvage, du non domestiqué en fait. C'est vraiment pas soit le bien, soit le mal, c'est vraiment une entité à part entière. Donc elle abrite vraiment dans plein de contes. Et elle est la sorcière qu'il faut pas trop embêter, mais qui va aider à se construire en fait, de façon un peu violente
oui,
parfois.
Parce que j'ai déjà entendu son nom, mais pourquoi on l'entend dans les histoires ?
Bah, ça dépend, il y a plein d'histoires, en tout cas des histoires européennes, pas trop, mais enfin de l'Europe, de l'Union Européenne plutôt,
ouais.
Mais de l'Europe de l'Est, il y a énormément d'histoires faites avec la Baba Yaga. Ce sera un peu notre grand méchant loup.
Mais c'est pour faire peur aux enfants.
C'est pour faire peur aux enfants, mais pas que. C'est pour leur montrer que parce qu'ils ne suivent pas les règles, bah, y a des conséquences. Elle vit seule, donc en dehors du monde des hommes. Elle maîtrise ses forces qu'elle peut comprendre. Et elle symbolise vraiment l'inconnu, l'initiative et une forme de liberté, en fait. Celle que la société redoute toujours un peu. Donc le fait que bah, parfois, on arrive du positif, mais parfois pas. Et souvent, la Baba Yaga, elle punit les enfants qui vont être irrespectueux ou qui vont se montrer hautain. Donc c'est vraiment une sorte de donneuse de leçons, mais assez violemment en fait. Vraiment comme la grand-mère, qu'il ne faut pas trop déranger, qui peut t'aider, mais si tu la déranges un peu trop...
Elle peut
voilà,
avoir
elle peut
des conséquences, quoi.
Alors, la grand-mère normale, elle ne mange pas les enfants, mais la Baba Yaga, suivant les versions sur les comptes, oui et non.
Mais c'est terrifiant
oui.
De raconter ça à un enfant, c'est...
Enfin, elle fait ce qu'elle veut un peu.
C'est ça, en fait, ça dépend... Ça, en fait, elle suit ses propres valeurs à elle, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, dans un des contes, un père bat sa fille, et donc la fille se sauve, et le père sait qu'elle va tomber sur la maison de la Baba Yaga, et qu'elle va mourir. Et en fait, la Baba Yaga a pitié de cette fille, et du coup, elle lui dit, bah, viens chez moi, travaille pour moi, et en échange, tu auras un foyer. Donc, elle n'est pas complètement méchante. Après, de là à dire que c'est la bonté incarnée, peut-être pas. Mais c'est vraiment un personnage complètement controversé, ce qui est assez rare dans les contes, je trouve. Parce que bah, c'est soit les gentils, soit les méchants. Et là, vraiment, on a ce personnage qui est complètement... qui a ses propres valeurs, en fait, et qui est assez renfermé. Parce que bah, enfin, sa maison, c'est des énormes pattes de poulet qui font la taille d'arbres et qui marchent, quand même.
Mais déjà, voilà, son habitation, elle n'est pas très rassurante avec l'architecture de pattes de poulet. À revoir la décoration.
Ou pas, ça se trouve, ça peut attirer. Hein.
Bah, en fait,
pas vraiment.
Le but, c'est vraiment.
T'imagines des pattes. Non, mais Antoine,
j'aime pas le poulet de toute façon, j'irai pas.
Et après, sa maison a vraiment pour but de pas attirer les gens en fait. Parce qu'elle va être... En fait, c'est juste une mamie qui va être tranquille, qui veut pas qu'on la dérange et elle se retrouve toujours dérangée.
Oui, mais en fait, elle veut pas être dérangée, mais quand on la dérange, elle est terrifiante.
Elle est terrifiante.
Tu n'oserais pas faire
non,
quelque chose de
mal. Voilà. En fait, elle est terrifiante et elle a sa façon à elle de réagir. Et c'est pour ça que j'ai apprécié vraiment ce personnage dans les contes et mythologiques, parce qu'on ne peut jamais prévoir sa réaction. Quand on en parle, ça va être « Ah, la Baba Yaga, est-ce qu'elle va... elle va enfermer l'enfant ? Est-ce qu'elle va l'aider ? Est-ce qu'elle va punir ? Est-ce que... En fait, on ne sait jamais vraiment. Et du coup, c'est ça qui rapproche une autre dynamique au conte.
Elle est vicieuse.
C'est ça.
Un conte européen, du coup
Alors oui, c'est très dans l'Europe de l'Est, du coup, l'Est. Donc vraiment l'ancienne URSS, tout ça.
On retrouve...
Ouais, c'est ça, Biélorussie, ouais. Russie. Et on retrouve cette dynamique de la peur qui était... Enfin, il faut replacer son contexte dans ce que c'était avant, l'inconnu. Enfin, ça fait aussi un peu peur. C'est vraiment la représentation des choses qu'on ne contrôle pas vraiment, en fait.
Bon, je préfère quand même les monstres sous le lit. On va compter. Dans l'Europe de l'Ouest. Je sais pas si c'est seulement dans notre environnement, mais faire peur aux enfants avec une sorcière comme ça dans l'Est.
Ah bah, le dernier conte qu'on avait fait, les chroniques, c'était avec Dracula, ça vient aussi à la base des contes de l'Est, et c'est pas mis non plus.
C'est très sombre là-bas.
C'est ça. Mais...
Halloween doit être fabuleux.
Bah, après, chez nous aussi, hein, le Krampus, il était pas forcément très naturel.
Ok, merci Louise. C'est tout bon ?
C'est tout bon.
D'accord. Bah, merci beaucoup. Antonin, c'est notre petit mini bike.
Exactement.
Mini quiz.
Voilà, pour vous détendre, je vous propose donc le bac. Parce que je sais que vous, du coup, vous n'avez pas forcément le bac tout le temps. si je fais pas maintenant aussi, vous allez le louper à chaque fois, tu vois, donc c'est pas drôle.
Donc, après, nous, on a un gros bac en fin de d'année, donc quelques mois, si tu veux savoir.
Je parle d'un bac, le jeu, ok.
Sans rire.
On t'écoute.
Et donc, quelques questions, voilà, donc je vais un peu faire des deux. On va faire ce qu'on veut. Donc là, je vous propose sur le thème des métiers.
Ok.
D'accord. Vous voyez bien. Donc maintenant, des métiers en J.
Un journaliste.
Un journaliste.
Un jardinier.
Pourquoi j'ai pas mis E à journaliste ? Jardinier. Et en fait, vous les donnez dans l'ordre, c'est pas normal.
Premier, on a pas regardé. Hein. Moi, j'ai pas.
Un jongleur.
Un jongleur aussi. Plus dans. Dans le jugement.
Un juge.
C'est qui me fait rire, tu vois. Juriste aussi.
Joueur de foot. Un joueur de basketball.
Un joueur de tennis.
Bon. Alors je sais, il y en a pour
de
les.
Bowling.
Non, arrêtez.
De pétanque.
Et pour le cheval alors. Ceux qui sont sur les chevaux.
Un joueur de.
Non, c'est un pas
joker.
Un joueur. Un jockey, c'est ça.
Un jockey.
Un jockey.
Elle est bon.
C'est bon, t'as le film.
Voilà, maintenant en D. Là, il y a tout ce qui est informatique, si vous voulez.
Documentaliste, dentiste.
Voilà. Développeur. Designer.
Ah, le docteur, c'est pas un métier, c'est oui, un niveau d'études. Bon. Hein.
Merci, Louise. En général, quoi, un docteur.
Celui qui vous aide à déménager.
Voilà, un déménageur.
Ça m'énerve. Comment le dire sans donner la réponse ? Et ceux qui ne chantent pas, mais qui... Bon, ils peuvent chanter aussi.
Un dramaturge.
Un dresseur.
Il y a des pistes de danse. En fait, je viens de dire la réponse encore une fois. Ça m'énerve.
Un danseur.
Comment le dire sans donner la réponse ? Et sinon, en V, un métier en V.
Voiturier.
Un voiturier. ceux qui vont soigner les animaux.
Un vétérinaire.
Exactement. Un vigneron, j'avoue, je sais même pas c'est quoi.
C'est ceux qui s'occupent dans les vignes et qui font le vin, les vignerons.
Ah, ok. Il y a aussi dans les hôtels, ceux qui s'occupent de ceux qui habitent dans les chambres. Il y a souvent quelqu'un qui va s'occuper.
Qui
va les guider aussi, qui va les servir un peu. Il y en avait à l'époque des rois, on va dire.
Un valet.
Un valet, voilà. Ah, donc un valet de chambre.
Trop forte. J'avais pas pensé.
Sinon, j'allais sortir le vieux jeu de cartes.
Ça s'appelait comme ça.
Ah ouais ?
Non.
T'as appelé ça comment ?
Bah, pour moi, c'était genre les personnels un hôtelier. Hôtel, quoi. Voilà, oui, un hôtelier.
À mon avis, ça doit changer suivant.
Oui,
plusieurs ça change.
Mais voilà, mais ça, de toute façon, c'est un peu dans le même univers. Et sinon, un vendeur, tout simplement. Bon, c'est une catégorie, on va dire. Bref.
Passons.
Pour maintenant, des musiques en T. Bon, franchement, j'ai pas cherché parce qu'avec tous les œufs qu'il y a.
Des musiques en T. Ah, Taylor Swift, c'est pas une musique, mais c'est une chanteuse.
Oui.
Il n'y a pas besoin de chercher quand il y a le The devant.
The Scientist de Coldplay.
Ah oui.
Voilà.
Tu l'avais ?
Non.
Non ?
Mais après, il y en a plein, là, des chansons.
The Greatest de Billie Eilish.
Oui.
Tatiana de La Femme, c'est une musique française.
Elle enchaîne.
Variété française.
J'en trouve toujours pas. Et bah, c'est pas grave. maintenant, A. Alors, avec tous les E, bon, j'imagine que c'est bon, ça va. Non, A, mais E.
Ah, mais c'est le son E.
Mais
en fait.
Non, mais le E, genre.
Quel mode
Anyway.
Anyway.
Ah, bah, anyway, voilà, exactement, c'est un titre aussi. Non, mais par exemple, All American Beach, par exemple.
Ah, de Olivier Rodrigo.
Exactement.
Mais parce que là, c'est en A. En A, d'accord.
Oui, mais en anglais, c'est le déterminant E.
Ok. Je ne vais pas du tout. Ok, continue tes questions, là.
Ok. Et maintenant, R. Bon, là, bon...
Musique en R.
Oui, en R.
Moi, j'ai toujours le groupe, mais The Rolling Stones, mais ça compte pas.
Ah, The Rolling Stones, c'est trop bien, ça.
Incroyable.
En R. Wow.
Rocketman.
Ah oui!
Oui.
Une autre connue, c'est un tube un peu, Runaway.
Runaway de Bruno Mars.
Bah, il y avait aussi de Kate Bush, non?
Oui, il y en a deux en fait. Et les deux sont aussi bien.
Oui! De Kate Bush.
Oui, et avec dans Stranger Things.
Et aussi Radioactive. Ah, vrai dire, je sais même plus c'est qui.
Radiohead.
Ouais, je crois. Je sais plus.
En fait, ou j'ai de aucune idée. Image même. Bref.
C'est, on ça, peut, quoi. On peut. Bon, et du coup, là, on n'a plus trop le temps. J'ai fait juste une petite question, histoire comme ça, qu'on finisse sur une question. Quelle est la première ville équipée d'eau chaude? Je vous donne des propositions, évidemment.
Ouais.
Entre Pompéi, ça c'est un peu un comble, 2, Alexandrie, et 3, Pékin.
Bah, naturellement ou par l'homme?
Il est perdu.
Parce que les termes, elles sont pas naturellement chaudes.
Oui, mais après, on remonte il y a quelques années, il y a 10 Pompéi. Milliards d'années.
Ouais, avec les enfin les
non, mais vraiment, équipé d'eau chaude, c'est eau chaude à la maison, quoi.
Bah après,
genre dans les douches et tout.
Bah
parce
après,
que l'eau chaude, il y en a partout.
Avec les chutes volcaniques bah ouais, et tout, je pense que ça produit
ouais,
l'eau chaude.
Ouais, moi aussi, j'irais Pompéi.
Et bah, vous avez bien raison.
Ah, tu vois.
C'est effectivement Pompéi. Et bah, du coup, la prochaine fois, on continuera un peu le bac et les questions aussi avec.
Il n'y a pas de quoi.
Super.
Avec plaisir. C'est tout bon ?
C'est tout bon.
C'est tout bon. C'était agréable. Merci beaucoup, Antonin. Nous écoutons la musique Green Light de Lorde. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor. On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Come get my things, but I can't let go.
RCN.
RCN.
L'âge bête.
Nous terminons l'émission avec ma chronique.
Exactement. Tu vas nous parler de quoi alors ?
Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les chats de hasard. C'est un livre que j'ai lu parce que c'est une amie qui me l'a que je l'ai emprunté à une amie parce que je cherchais de quoi lire justement. Et ce livre-là, il m'a particulièrement intéressée. Louise, est-ce que ça va ?
Ça va, ça va.
Ok. Alors du coup, ce livre, il est écrit par Annie Dupéré, qui est un livre qui est sorti en 2003.
C'est une autrice française ?
Oui, elle est notamment assez célèbre, comédienne, qui est également une romancière à succès. Elle a écrit plusieurs livres, je ne sais pas si vous connaissiez, mais je vous en citer deux, trois. Le nez de Mazarin, Allons voir plus loin, Veux-tu ? Ou alors Essence et parfum. Enfin, Annie Dupéré a écrit ce livre, Les chats de hasard, parce qu'elle est super... Elle aime ce qui l'entoure avec les animaux et la nature autour d'elle. Et ce livre-là, elle s'est particulièrement intéressée par les chats parce qu'elle a beaucoup, elle a grandi autour des chats.
Ok.
Et je voulais vraiment, parce que ça m'a vraiment touchée, parce qu'être entourée de chats, c'est assez confortable et assez mignon à la fois. Parce que c'est super, enfin, c'est pas compliqué d'apprivoiser un chat, mais quand un chat t'aime bien, il aura plus confiance en toi et avoir cette confiance amicale avec un chat, pour moi, c'est très beau.
Donc, tu le recommandes à des amoureux des chats, c'est ça ?
Voilà. En fait, elle raconte tout au long de sa vie, elle disait que quand elle était plus petite, elle est vraiment entourée de chats. C'était un village avec plein de chats et du coup, elle a été bercée dans ça. Et elle disait que c'est différent des personnes pour s'occuper des animaux. Par exemple, elle avait deux grands-mères. Une de ses grands-mères, par exemple, n'était pas intéressée par les animaux. C'était comme ça, c'était naturel. Il ne fallait pas trop la bouger avec. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je vois.
Elle n'était pas
assez... brisquée.
Voilà, les animaux, c'était une gêne pour elle. Ou alors, d'autres personnes peuvent être plus sensibles avec ce que les animaux ressentent et ça fait c'est beau. Pour moi, je trouve que c'est beau.
C'est magnifique, les relations avec les animaux. Donc tu recommandes ce livre pour tous les amoureux des animaux, c'est ça ?
C'est sensible, parce que du coup, elle raconte qu'il y a des présences d'animaux quand elle devient plus adulte ou elle commence à fréquenter quelqu'un et que le chat va pas trop apprécier d'autres personnes que elle, finalement, parce que l'animal est habitué à une personne.
Ah oui, à une seule présence.
Voilà, oui. Et elle posait justement la question du fait que on peut décrire la personnalité d'une personne en lui demandant la question si cette personne est plus chat ou plus chien.
On vient d'avoir cette conversation juste avant.
Donc ça, Louise, tu serais plus...
Plus chien.
Plus chien. Et du coup, sur ça, elle disait qu'avoir cette perspective du chien... c'était d'avoir plus d'autorité, d'avoir le fait de vouloir faire des... Attendez, j'ai plus mes mots, mais en fait, le fait de faire des... de plus apprivoiser le chien, quoi, avec...
Okay. En lui faisant de l'éduquer.
De l'éduquer, voilà, justement. De prendre le temps de l'éduquer et du coup avoir plus d'autorité.
Ok, et les personnes plutôt team chat, du coup ?
Seraient plus tranquilles.
Plus ouais, poser.
On se pose et on admire, on est... mais il faut faire super attention quand on a des chats agités, comme on disait avant. Tant que tu serais plus quoi ?
Plus chien, plus chat.
Plus chat, je pense.
Plus chat. Moi aussi. Ouais, voilà, je suis chat sans laquelle du coup j'ai lu ce livre. Et voilà, moi je le conseille parce que c'est une petite lecture qu'on peut lire comme ça quand vous savez pas quoi faire.
C'est une lecture qui fait du bien en fait.
Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de problématique au final dedans.
Elle
raconte quelques petits accidents d'anecdotes.
Voilà. Mais elle va, pas vraiment... Par exemple, citer, elle a eu des accidents où les chats vont.
Un chat... Faire des bêtises.
Voilà. La mort d'un chat aussi, qui est triste quand on grandit avec un chat avec qui on était très proche. Les animaux avec qui on a beaucoup eu de comptabilité et d'amitié.
De proximité.
Exactement. Et quand tu perds cet animal avec qui tu as eu beaucoup de confort, ça fait mal.
Oui, oui.
Ça peut, c'est que ça soit
qu'on
chien.
Qu'on a grandi avec, tout.
Voilà, ça peut être oiseau aussi.
Oui, n'importe quel animal, pratiquement, il y a un
c'est
lien.
C'est humain de ressentir ça. Et bah voilà.
Tu nous rappelles le titre du livre, s'il y a des internautes
Les chats de hasard.
Les chats de hasard.
Un chat de hasard, c'est parce que dans sa vie d'adulte, elle a rencontré, mais il y a eu un chat avec qui elle a eu plus d'apprévisionnement et du coup elle a grandi avec et ce chat a vécu de nouvelles naissances avec un nouveau-né, etc. Et ça c'est mignon. Voilà, elle va faire un mélange entre la mort et la naissance, entre la joie et ce qui est triste. Mais enfin, voilà. Moi, je conseille.
Ok, bah super. Bah, merci beaucoup.
Merci, il n'y a pas de quoi. Donc du coup, on finit cette émission avec moi, Elsa, qui a animé aujourd'hui, avec Louise et Antonin, et Roxane qui nous a quittés en milieu d'émission parce qu'il y a des problèmes de bus, etc. Il ne faut pas les rater. Effectivement. Et bah voilà, la semaine prochaine, on retrouve une équipe pas complète parce que nous avons les voyages en
Exactement,
Angleterre.
On a la chance de voyager en Angleterre et à Amsterdam.
Et en Espagne aussi.
Magnifique. Et en Espagne, exactement.
Voilà, c'est tout pour Marquette, pour les voyages. On se retrouve mercredi prochain. Salut tout le monde.
Salut.